Lovecraft adore les chats. Il fallait bien une nouvelle pour ses félins adorés. Mais que font réellement les adorables Batous?
On dit à Ultar, qui se trouve au-delà de la rivière Skye, nul n'a le droit de tuer un chat. Ce que je comprends, en vérité, quand j'en observe un qui ronronne, couché devant le feu. Car le chat est un animal mystérieux, familier de choses étranges que les hommes ne peuvent pas voir. Il est l'âme de l'ancienne Égypte, le détenteur de récits venus des cités perdues d'Ophir et de Méroé, le parent des seigneurs de la jungle, l'héritier des secrets de la séculaire et sinistre Afrique, et le cousin du sphinx dont il parle la langue. Mais plus vieux que lui, il se souvient de choses que le sphinx a oubliées. À Ultar, bien avant que les notables interdisent le meurtre des chats, vivaient un vieux paysan et sa femme, qui prenaient grand plaisir à capturer et à tuer tous ceux de leurs voisins. Je ne sais pourquoi ils agissaient ainsi, mais il est vrai que beaucoup de gens détestent entendre les chats miauler la nuit, et s'offusquent qu'au crépuscule, ils courent furtivement dans les cours et les jardins. Quoi qu'il en soit, le vieil homme et son épouse se plaisaient fort à s'emparer de tout félin qui s'approchait de leur masure. Et, à en juger par les bruits qu'on entendait la nuit venue, de nombreux villageois conjecturaient que la mise à mort devait être particulièrement originale. Mais ils n'abordaient pas ces questions avec les deux vieux, à cause de l'expression qu'on lisait sur leurs visages fanés, et également parce que leur chaumière, aussi minuscule qu'obscure, restait cachée sous de grands chênes, derrière un terrain en friche. À dire vrai, les propriétaires des chats les détestaient, mais les redoutaient plus encore. Et, au lieu de les traiter d'assassins, se bornaient à prendre garde qu'aucun chasseur de souris n'aille errer aux environs du taudis dissimulé là-bas sous les arbres ténébreux. Quand une fatale négligence entraînait la disparition de l'un d'eux, et que certains bruits se faisaient entendre dans la nuit, le possesseur de l'animal se lamentait, impuissant, ou se consolait, en remerciant le destin que l'un de ses enfants ne se fût pas éclipsé de la même manière. Car les habitants d'Ultar étaient des gens simples, et ne savaient même pas ce qu'il advenait des chats. Un jour, une étrange caravane de nomades venus du sud pénétra dans les étroites rues pavées de la ville. Ils étaient noirs de peau et très différents des vagabonds qui traversaient le village de fois l'an. Sur la place du marché, ils dirent la bonne aventure pour quelques pièces d'argent et achetèrent aux marchands des perles de couleur vive. Personne ne savait d'où ils venaient, mais ils psalmodiaient des prières inconnues et les parois de leurs roulottes étaient peintes de figures bizarres, au corps d'hommes surmontés de têtes de chats, de faucons, de béliers et de lions. Et le chef de la caravane portait un chapeau orné de deux cornes, entre lesquelles reposait un disque curieux. Il y avait dans cette singulière caravane un enfant sans père ni mère, qui n'avait plus à chérir qu'un petit chaton noir. La peste ne s'était pas montrée tendre avec lui, mais il avait quand même laissé cette petite boule de poils pour adoucir son chagrin. Et quand on est très jeune, on peut se consoler au spectacle des joyeuses facéties d'un chaton noir. Aussi le petit garçon, que le peuple à peau sombre appelait Ménès, riait-il plus qu'il ne pleurait, assis avec le gracieux animal sur les marches d'une roulotte aux peintures bizarres. Les nomades étaient à Ultar depuis 3 jours quand, un matin, Ménès ne put retrouver son chat. Comme il pleurait à grands cris sur la place du marché, des villageois lui parlèrent du vieillard et de sa femme, et des bruits entendus durant la nuit. Quand il apprit cela, ses pleurs cédèrent la place à la réflexion, et pour finir, à la prière. Il étendit les bras vers le soleil et pria dans une langue que nul ne pouvait comprendre, bien qu'à la vérité les habitants de la ville n'aient pas fait beaucoup d'efforts en ce sens, occupés qu'ils étaient à observer le ciel et les formes étranges que prenaient les nuages. Chose surprenante, tandis que le petit garçon lançait ses supplications, il semblait prendre là-haut l'allure nébuleuse et indistincte de choses inconnues, de créatures hybrides couronnées de disques placées entre leurs cornes. La nature n'est pas avare de telles illusions quand elle veut impressionner notre imagination. Cette nuit-là, les nomades quittèrent Ultar pour ne plus reparaître. Les chefs de famille s'inquiétèrent en constatant que, dans tout le village, il était impossible de trouver le moindre chat. Tous avaient disparu du foyer. Gros, petits, noirs, gris, rayés, jaunes ou blancs. Le vieux Cranon, le bourgmestre, jura qu'ils avaient été emmenés par le peuple à peau sombre pour venger le meurtre du chat de Ménès et maudit la caravane et le petit garçon. Mais le notaire, le maigre Nite, déclara que mieux valait suspecter le vieux paysan et sa femme, dont la notoire haine des félins devenait chaque jour plus audacieuse. Personne pourtant n'osa récriminer auprès du sinistre couple, même quand Attal, le fils de l'aubergiste, eut juré qu'au crépuscule il avait vu, dans ce lieu maudit caché sous les arbres, tous les chats d'Ultar avancer en cercle, d'une allure très lente et solennelle, autour de la chaumière, marchant par deux, comme s'ils s'adonnaient à des rites inconnus des hommes. Les villageois hésitaient à croire un enfant aussi jeune. Et bien qu'ils aient craint que les deux vieux n'aient infligé au chat un enchantement mortel, ils préférèrent attendre pour faire des reproches aux paysans de le rencontrer en dehors de son obscure et répugnante demeure. Ultar s'endormit donc plein d'une fureur impuissante. Mais quand les gens se réveillèrent à l'aube, voilà que chaque animal était revenu au foyer. Gros, petit, noir, rayé, jaune ou blanc, aucun d'eux ne manquait à l'appel. Le poil luisant, l'air repu. Tous émettaient des ronronnements sonores. Le vieux Cranon répéta une fois de plus que les nomades avaient dû les emmener, puisque d'ordinaire aucun d'entre eux ne revenait vivant de la chaumière du vieillard et de sa femme. Tous, cependant, s'accordèrent à trouver des plus bizarres le refus des chats de manger leur part de viande ou de boire leur soucoupe de lait. Deux jours durant, les félins indolents, aux poils luisants, s'abstinrent de toute nourriture et ne firent que sommeiller au soleil ou près du feu. Une semaine entière passa avant que les villageois se rendent compte qu'aucune lumière n'apparaissait plus le soir aux fenêtres de la chaumière dissimulée sous les arbres. Le maigre Nite fit alors remarquer que personne n'avait vu le vieil homme et sa femme depuis la nuit où les chats avaient disparu. La semaine suivante, le bourgmestre décida de surmonter ses craintes et d'aller à la demeure silencieuse pour voir ce qu'il en était. Il prit soin, cependant, de se faire accompagner de Shang, le forgeron, et de Tul, le tailleur de pierre, pour qu'ils lui servent de témoin. Quand ils eurent forcé la porte, ils ne trouvèrent que deux squelettes humains, parfaitement nettoyés, gisant sur le sol de terre battue et un grand nombre d'étranges scarabées qui rampaient dans les sombres recoins de la pièce. Il s'ensuivit de longues discussions entre les notables d'Ultar. Zat, le juge, débattit sans fin avec le notaire, le maigre Nite. Et Cranon, Shang et Tul se virent accablés de questions. Même le fils de l'aubergiste, le petit Attal, fut interrogé en détail et reçut une sucrerie en récompense. Tous parlèrent du vieux paysan et de sa femme, de la caravane de nomades à la peau sombre, de Ménès et de son chaton noir, de ses prières et de l'aspect du ciel à ce moment-là, des rites auxquels s'adonnaient les chats la nuit où les nomades avaient quitté Ultar, et de ce qu'on avait trouvé plus tard dans la sordide demeure cachée sous les arbres ténébreux. Et pour finir, les notables édictèrent cette loi dont parlent les marchands d'Ateg et qu'évoquent les voyageurs de Nir, à savoir qu'à Ultar, nul n'a le droit de tuer un chat.